Voice of Indonesia.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Aujourd'hui, jeudi 27 juin 2019. Et comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, vous allez écouter l'histoire d'aujourd'hui et mon Indonésie. La rubrique suivante, vous allez écouter magazine culturel qui sera continué avec l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons présenter une chanson indonésienne. Voilà notre programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'augmentation du nombre de contacts entre personnes est devenue une préoccupation lors de la réunion entre le président indonésien Joko Widodo et le président argentin Mauricio Macri. L'Indonésie et le Japon ont signé un mémorandum d'accord sur le rapatriement du cadre des troupes japonaises en Papouasie et en Papouasie-Occidentale. Le président a estimé que l'Indonésie et l'Argentine pouvaient intensifier leur coopération. 9 entreprises d'État ont signé un protocole d'accord avec une société laotienne. Selon le vice-président, le maintien de la paix devient le fer de lance de la diplomatie indonésienne. Jérémy nous présente maintenant le journal complet. Le gouvernement indonésien encourage l'intensification des relations intercommunautaires entre l'Indonésie et l'Argentine. Cela a été révélé lors d'une réunion entre le président indonésien Joko Widodo et le président argentin Mauricio Macri au palais présidentiel de Bogor, Java Occidental, mercredi. Outre les aspects économiques, le gouvernement indonésien espère également que le gouvernement argentin pourra conjointement améliorer les relations entre les deux pays. Cela a été déclaré par la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, après avoir accompagné le président Joko Widodo à l'acceptation du président Mauricio Macri au palais présidentiel de Bogor, mercredi. Selon la ministre Retno Marsudi, le gouvernement indonésien a exprimé l'espoir que le gouvernement argentin pourrait donner la facilité au peuple indonésien qui veut se rendre en Argentine. La facilité est liée à la gestion des visas qui peut être effectuée dans un délai pas trop long. Cela a reçu une réponse positive du président Macri. Il fera un changement de système de gouvernement dans son pays. Les contacts entre personnes sont encore obstacles en ce qui concerne la question des visas. Par exemple, nous y allons, la période d'attente est très longue et nous avons commencé à discuter. Lorsque le président Jokowi a immédiatement déclaré cette question, le président de l'Argentine a immédiatement répondu que le système serait réinitialisé à nouveau. Outre la question d'un visa, une autre chose qui a été soulignée lors de la réunion entre les deux présidents était la normalisation de l'éducation. Concernant la question, selon la ministre Retno Marsudi, les gouvernements indonésiens et argentins ont signé le mémorandum d'accord pour qu'il y ait légalisation de la normalisation de l'éducation. Le gouvernement indonésien, par le ministre de l'Éducation et de la Culture et l'ambassade du Japon en Indonésie, ont signé un mémorandum d'accord sur l'excavation, la collecte et le rapatriement du cadre des soldats japonais qui sont morts dans la Deuxième Guerre mondiale dans les provinces de Papouasie et Papouasie-Occidentale. L'accord était signé par le directeur général de la Culture du ministère de l'Éducation et de la Culture, M. Hilmar Farid, et l'ambassadeur du Japon en Indonésie, Masafumi Ishii, au bureau du ministère de l'Éducation et de la Culture à Jakarta, mardi. Hilmar Farid a déclaré que la coopération de rapatriement cette fois est la prolongation de la coopération précédente en incluant de révision.
Excavasi memang sudah pernah dilakukan sebelumnya dan sekarang sebetulnya
l'excavation a déjà été effectuée auparavant et bien sûr il y a quelques petites révisions conformément à notre situation actuelle. La discussion est assez longue et alhamdulillah cette question est maintenant terminée et la coopération sera continuée. L'ambassadeur du Japon en Indonésie, Masafumi Ishi, a déclaré qu'au moins 20 000 cadres des troupes japonaises de la Seconde Guerre mondiale étaient encore en Papouasie. Le gouvernement japonais enverra une équipe chargée de procéder au rapatriement de ces cadres. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le président Joko Widodo a déclaré que l'Indonésie et l'Argentine avaient le potentiel d'établir la coopération plus élargie. Cela a été dit par le président dans son discours au président Mauricio au palais de Bogor mercredi. Lors d'une visite d'État en Indonésie, le président Mauricio Macri et la première dame Juliana Awada ont été accueillis par le président Jokowi et la première dame Iriana Joko Widodo au palais de Bogor. Selon Jokowi, l'Argentine est le deuxième plus grand partenaire commercial de l'Indonésie dans la région sud-américaine. Le président Jokowi et Mauricio ont tenu une réunion bilatérale à laquelle ont été participées des délégations des deux pays, entre autres la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, le ministre indonésien du Commerce, M. Enggar Tiarso Lukita, le ministre de l'Agriculture, M. Amran Sulaiman, et le ministre du Secrétaire d'État, M. Pratikno. L'ambassadrice d'Indonésie en Argentine et en Paraguay, et aussi à Uruguay, Nini Kun Naryati, et l'ambassadeur d'Argentine en Indonésie, Ricardo Bocalandro, étaient également présentes à la réunion. 9 entreprises d'État ont signé mardi un protocole d'accord en coopération avec des sociétés laotiennes, membres du groupe Pon Savan à Vientiane au Laos. La ministre indonésienne de l'entreprise d'État, Mme Rini M. Sumarno, avec le représentant du ministère de l'entreprise d'État et l'ambassadeur de la République d'Indonésie au Laos, M. Pratito Suharyo, plusieurs responsables républicains du Laos, tels que le ministre de l'Énergie et des Mines, Kamani Intirat, le ministre de la Planification et de l'Investissement, Supan Kyo Miksai, et le président directeur général du groupe Pon Savan, Ot Pon Savana, sont les témoins de la cérémonie de signature. Cela a été déclaré par le ministre Rini dans un communiqué officiel reçu par Antara à Jakarta récemment. Le ministre Rini considère le Laos comme un pays avec le potentiel énorme en ressources naturelles et des opportunités commerciales pouvant être coopérées avec des entreprises d'État indonésiennes. Au responsable du gouvernement laotien, la ministre Rini a déclaré que les entreprises d'État indonésiennes jouent désormais un rôle très important dans la construction du pays et l'amélioration du bien-être de la population. Le vice-président Yusuf Kalla a déclaré que les efforts déployés par les forces armées indonésiennes pour maintenir la paix devenaient une diplomatie supérieure pour le pays de créer un écosystème de paix et de stabilité mondiale. C'est ce qu'a déclaré le vice-président lors de l'ouverture de la conférence internationale sur la préparation des forces armées modernes au maintien de la paix au XXIe siècle à l'hôtel Borobudur, Jakarta, récemment. Selon lui, plus de 2800 membres des forces de l'armée indonésienne et de la police, y compris 100 femmes, étaient en service dans les missions de maintien de la paix des Nations Unies. Il a révélé plusieurs contributions de forces de maintien de la paix indonésienne. 850 personnes dans l'unité de mouvement rapide en République démocratique du Congo, 140 personnes dans l'unité de police formée en République centrafricaine et 81 officiers de police individuels dans diverses missions des Nations Unies. outre des équipements de défense fabriqués par des industries stratégiques nationales, les forces de paix indonésiennes, équipées de la capacité et l'amélioration des compétences générales dans le cadre de la modernisation des forces armées pour donner naissance à des soldats de la paix prêts à servir le 21e siècle. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Voice of Indonesia.
Bonsoir auditeurs et auditrices, vous êtes à l'écoute de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Ce soir, vous allez écouter le commentaire. Encourager l'intérêt de la jeune génération à devenir des agriculteurs. La profession d'agriculteur est de moins en moins attrayante pour la jeune génération indonésienne. Selon les données de l'Agence centrale de la statistique, BPS, les travailleurs du secteur agricole ont atteint cette année 35,7 millions de personnes, soit 28,7% de 1024 millions d'habitants actifs. Pendant ce temps, en 2017, le nombre était 35,9 millions, soit 29,6% de 121 millions d'habitants actifs. En termes d'âge, les travailleurs indonésiens ont en moyenne plus de 50 ans, alors que l'intérêt des jeunes pour devenir les agriculteurs est très faible. Le manque d'intérêt pour la jeune génération de l'Indonésie à devenir agriculteur, en raison de l'image de la profession comme agriculteur qui ne se vante pas dans la société. Les Indonésiens sous-estiment le métier d'agriculteur. L'image d'un agriculteur qui est minable et sale ne capte pas le jeune. En outre, de nombreux agriculteurs vivant dans la pauvreté le rendent également moins intéressant si on le compare à d'autres professions comme médecin ou police. Le manque d'agriculteurs ne peut certainement pas être toléré car les besoins alimentaires continuent d'augmenter parallèlement à la croissance démographique indonésienne. Le manque d'agriculteurs peut menacer la souveraineté alimentaire. Encourager l'intérêt de la jeune génération à devenir agriculteur est une priorité. Si vous voulez être indépendant des importations, il est très important de maintenir l'existence des paysans. Afin de maintenir l'existence des paysans, la première chose à faire est de changer l'image des agriculteurs chez les jeunes générations. La technologie agricole peut changer l'opinion des jeunes sur l'agriculture. L'utilisation des équipements modernes dans le secteur agricole doit être appliquée dès les labours jusqu'à la récolte. L'utilisation de la technologie moderne dans le secteur agricole réduit donc le nombre d'agriculteurs, mais ce n'est pas de problème car dans d'autres domaines, elle peut absorber plus de travailleurs. L'utilisation de la technologie vise à accroître la productivité et à attirer les jeunes à devenir agriculteurs et à faire des affaires dans l'agriculture. Afin d'intensifier l'utilisation de la technologie dans le secteur agricole, le gouvernement indonésien se concentre maintenant sur le renforcement de l'éducation et de la formation professionnelle dans le domaine des ressources humaines. La stratégie du gouvernement commence à donner des résultats, comme en témoigne le nombre croissant d'étudiants inscrits à la École polytechnique du développement agricole. Lors de la réunion bilatérale récemment, la Nouvelle-Zélande a même reconnu le succès de l'Indonésie dans l'application de la stratégie visant à attirer les jeunes à devenir les agriculteurs. Qu'attendons-nous de la jeune génération qui étudie les techniques agricoles dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle deviendra des agriculteurs productifs au lieu de choisir de devenir les fonctionnaires civils. Auditeurs et auditrices, c'était le commentaire.
Voice of Indonesia.
Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 27 juin 1954, la centrale nucléaire OPNIS en Union soviétique est devenue la première centrale nucléaire dans le monde à produire l'électricité de 5 kW. Deux ans plus tard, on construisait et installé des centrales nucléaires ayant différentes fonctions en Angleterre, tandis qu'en France, le premier centre d'opération nucléaire a été exploité et commencé sa production en Chine en 1963. Le modèle de technologie nucléaire est ensuite devenu une tendance pour l'énergie du monde, même si les coûts d'utilisation et de production ont augmenté en 1970 jusqu'en 1980. Enfin, la catastrophe de Tchernobyl en 1986 a incité les hommes à repenser l'utilisation de l'énergie nucléaire. Le 27 juin 1993, les États-Unis attaquaient Bagdad. Le 27 juin 1993, utilisation 23 missiles à longue portée, les États-Unis ont attaqué la ville de Bagdad et ses environs. Cette attaque a été lancée parce que les États-Unis ont accusé le régime Saddam d'être impliqué dans une tentative d'assassinat du président des États-Unis George Bush Sr. lors d'une visite au Koweït en avril de la même année. Au cours de cette attaque, 6 civils irakiens ont été tués et un bureau de l'agence de sécurité irakienne a été endommagé. Le 26 juin 1997, le président du Tadjikistan, Imamali Rahmonov, et le chef de combattants islamistes du pays, Abdullah Nur, ont signé un accord de paix à Moscou. Grâce à cet accord, la guerre civile de 5 ans au Tadjikistan a pris fin. Environ un an après l'indépendance du Tadjikistan en 1991, après l'effondrement de l'Union soviétique, un conflit entre des groupes désireux de gouverner l'islam au Tadjikistan et des groupes pro-russes a surgi. Ce conflit a finalement dégénéré en une guerre civile et provoqué de nombreuses victimes. Les Nations Unies, l'Iran et la Russie ont tenté de jouer le rôle de médiateur entre les deux groupes et ont finalement réussi à faire signer l'accord de paix en 1997. Basé sur cet accord, 30% des postes gouvernementaux ont attribué à des groupes islamiques. Leur armée islamique est également incluse dans l'armée du Tadjikistan. En outre, la constitution du Tadjikistan a été modifiée pour tenir compte de la volonté des groupes islamiques. C'était l'histoire aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Gadis idamanku, hanya engkau yang satu, hadirlah dalam mimpi-mimpiku. Biar seribu, biar ramai mengganggu, padaku engkaulah ratu. Sejak mula bertemu, kau buat siangku sedingin salju. Dan malam jadi hangat, sehangat cintamu. Kasihku Rosanna, kau gadis idamanku. Dua hati menjadi satu bila kita bertemu. Oh Rosanna, gadis idamanku, bila kan sampainya waktu kasih kita bertemu dalam cinta, Rosanna. bertemu, kau buat siangku sedingin salju. Dan malam jadi hangat, sehangat cintamu. Kasihku, oh Rosanna, kau gadis idamanku. Dua hati menjadi satu bila kita bertemu. Rosanna, kau gadis idamanku. Bila kan sampainya waktu kasih kita bertemu dalam cinta. Rosanna,
merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée Rosanna, chantée par Marcel. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, écoutons maintenant mon Indonésie.
Chers amis, voici donc notre rubrique Mon Indonésie, avec le titre « L'Indonésie s'exprime la gestion des déchets plastiques ». La ministre de l'Environnement et des Forêts, Siti Nurbaya Bakar, a déclaré que l'Indonésie participait à la gestion des déchets plastiques en mer et soutenue par des actions au niveau régional et national. Cela a été déclaré par la ministre Siti Nurbaya Bakar après avoir participé aux activités de coopération mutuelle nettoyage de Ciliwung, le RIF, à Cibinong, Bogor Regency, en province Java occidentale dimanche. L'Indonésie s'est engagée à la gestion des déchets plastiques et elle a déjà un règlement présidentiel pour son plan d'action. Les efforts pour réduire consacrés à la gestion des déchets plastiques en mer. Les autorités locales ont également fait des pratiques visant à réduire l'utilisation des déchets plastiques. Mais la ministre Siti Nurbaya a admis que seulement 30 villes et régions qui appliquaient les règles sur les déchets plastiques. Le plan d'action national relatif aux déchets plastiques a déjà été adopté par les règlements présidentiels et les règlements régionaux. Environ 80% des régions ont déjà des plans d'action pour réduire les déchets plastiques dans leurs décrets régionaux. La ministre Siti Nurbaya a également rappelé que lors d'une réunion entre pays sur la gestion de la pollution marine, il a été déterminé que Bali était devenu le centre régional de la gestion de la qualité de la mer. Auparavant, 10 chefs d'État ou de gouvernement de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, ont ratifié la déclaration de Bangkok sur la lutte contre les déchets marins dans la région de l'ASEAN. Dans le document, les chefs d'État de l'ASEAN ont convenu de renforcer l'action au niveau national et par l'action de collaboration entre les pays membres et les partenaires de l'ASEAN afin d'empêcher et de réduire de manière significative les déchets marins, en particulier ceux résultant des activités terrestres, y compris la gestion écologiquement rationnelle. Les chefs d'État ou de gouvernement de l'ASEAN ont convenu d'encourager une approche intégrée de la terre à la mer pour empêcher et réduire les déchets marins. Ils sont également déterminés à renforcer les lois et les règlements nationaux et à renforcer la coopération régionale et internationale, notamment par le dialogue politique et l'échange d'informations pertinentes. Auditeurs et auditrices, c'était Mon Indonésie. L'Indonésie s'exprime la gestion des déchets plastiques.
Voice of Indonesia.
kau sebut cinta. Tak mungkin bisa melukai seperti yakinku juga begitu. Kau sebut cinta hanya bisa saling menjaga, menjaga hati agar bahagia. Cinta takkan pernah sanggup untuk menyakiti.
Berjalanlah
Voice of Indonesia.
C'était une chanson intitulée Notre histoire, chantée par Tompi. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel, un programme sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Oh,
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter un magazine culturel intitulé La fête traditionnelle de Kato Boko. Le gouvernement de la Régence de Maros dans la province de Sulawesi du Sud, par l'intermédiaire du département de la culture et du tourisme, est prêt à intégrer l'objet touristique et la culture pour soutenir le programme gouvernemental Merveilleuse d'Indonésie. Et jusqu'à présent, nous sommes plus concentrés sur les attractions touristiques naturelles. Mais maintenant, des objets de tourisme culturel sont également développés pour se soutenir mutuellement. L'un des tourismes culturels qui survit encore et qui est maintenu pendant des générations est la fête traditionnelle de la récolte Kato Boko. Elle est encore préservée par l'acteur coutumier du royaume de Marusu, M. Abdul Waris Karaing Sioja, avec la communauté locale. Kato Boko est la fête culturelle réalisée une fois par an. Un symbole du début de la récolte et également montre une solidarité entre la noblesse et la communauté. En outre, cette activité traditionnelle vise également à résoudre les obstacles étant rencontrés par les agriculteurs, tels que les attaques de parasites, les sécheresses et les inondations. La fête traditionnelle de Kato Boko a lieu au palais Bala Lompoa Karaing Marusu, la régence de Maros, dirigée par le chef coutumier de Karaing Marusu. Cette année, elle a été tenue pendant 2 jours, du 2 au 3 avril 2019. Depuis le matin, les habitants de Maros, notamment à Kasikebo, dans le sous-district de Maros Baru, se sont réunis à la maison traditionnelle de Bala Lompoa ke Karaingan Marusu. Les nobles du royaume Marusu portant des vêtements traditionnels Bugis Makassar et la communauté se sont dirigés vers les rizières coutumières appelées Toranu. Ils récoltent ensemble et ensuite les résultats de cette récolte ont été portés à la maison traditionnelle de Bala Lompoa ke Karaingan Marusu. Chers amis, c'était la rubrique magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta, intitulée La fête traditionnelle de Kato Boko. Merci à tous et à bientôt.
Voice of Indonesia.
Sayang, dia biarkanlah dia pulang dan tersenyum lagi.
Aku berlari mencoba memperbaiki segala kemurungan hatimu, bahwa kau selalu sendu. Aku takkan pernah tahu,
takkan pernah
jika kamu tak akan mau memberiku cara untuk menenteramkan hati. Yeah.
Oh Tuhan, bantulah dia berdiri dan juga memperbaiki hatinya yang sedih, sedih, sedih. Mohon Tuhan, beri dia kasih sayang, biarkanlah dia pulang dan tersenyum lagi.
Dia berdiri dan juga memperbaiki hatinya yang
sedih, sedih, sedih. Mohon Tuhan, beri dia kasih sayang, biarkanlah dia pulang
dan tersenyum lagi.
Oh Tuhan, bantulah dia berdiri dan juga memperbaiki hatinya yang
sedih, sedih, sedih.
Mohon Tuhan, biarkanlah dia pulang dan tersenyum lagi.
Tersenyum lagi, tersenyum lagi, buat dia tersenyum lagi. Tersenyum lagi.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie à Jakarta et merci d'être fidèle à notre antenne. Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée « Sourire encore » chantée par Abirama. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, pour la plus suivante, voici l'Indonésie en couleur.
Voice of Indonesia.
La ville de Jakarta et Shanghai ont coopéré comme prompt jumel au cours de 5 dernières années. Cette ville, Yogyakarta et Shanghai, sont les mêmes régions spéciales dirigées par le gouverneur. En tant que province jumelle, Shanghai a collaboré dans de nombreux domaines en tant que ville économique le plus développée en Chine. Par exemple, la coopération dans le domaine de la culture, à savoir la construction du centre culturel Yogyakarta-Shanghai dans le village Ketandan. Le centre culturel Yogyakarta-Shanghai est une manifestation du programme de la province jumelle qui a été mise en place par le gouvernement de la région spéciale Yogyakarta et Shanghai en Chine. Selon Omar Priyono, membre du personnel expert du gouverneur de la région spéciale de Yogyakarta, l'existence d'une coopération entre les provinces jumelles par l'intermédiaire de ce centre culturel devrait permettre de mieux présenter Yogyakarta à la population chinoise et peut certainement ouvrir un nouveau potentiel touristique. Ce centre culturel sera construit dans le quartier chinois Ketandan Malioboro à Yogyakarta. Le bâtiment du centre culturel Yogyakarta et Shanghai est créé pour accueillir diverses activités culturelles, éducatives, commerciales et de toutes sortes dans le but de soutenir la collaboration de la province jumelle. Le secrétaire de la région spéciale de Yogyakarta, Gatot Saptiadi, a déclaré « Actuellement, les arts culturels de la région spéciale de Yogyakarta sont souvent envoyés à exposer en Chine afin d'affirmer l'existence de Yogyakarta. Mais pour des formes permanentes telles que les bâtiments en Chine, il fait actuellement l'objet d'un travail de pionnier. » Avec cette collaboration, bien sûr, la ville de Yogyakarta et son potentiel touristique peuvent être mieux connus, en particulier par les habitants de Shanghai et par la société chinoise en général. Le personnel expert du gouvernement de Yogyakarta, Umar Piono, a ajouté qu'avec l'acquisition de cette facilité de coopération, on espère que la Chine fournira plus tard les mêmes facilités. Chers amis de la Voix de l'Indonésie, c'était l'Indonésie en couleur.
Sang mata memikat melambungkan asmara yang selalu meminta mengulur senja menanti datang sang pemilik hati rela menanti sejak terbit mentari tak sabar hati ceriakan sanubari dan bercumbu di ujung hari indahnya kisah kasih kita di masa remaja di bawah rayu senja kita di madu bermanja. Tiada masa-masa yang lebih indah dari masa remaja seakan dunia milik berdua. Hati terasa merindu tanpa rasa duka berkumandang. Kita dua
Vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée Jeune et merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.bonus.id. Chers amis, soyez toujours avec nous, la voix de l'Indonésie, de l'Indonésie pour le monde. Maintenant, nous allons vous présenter une chanson indonésienne.
Voice of Indonesia.
Bonsoir, chers auditeurs de la voix d'Indonésie dans le monde entier. Merci d'écouter la voix d'Indonésie. Voici le programme musical qui présente les musiques indonésiennes, soit traditionnelles et modernes. Pour cette édition, je vous présente une chanson de Titi Sandora intitulée Ton cœur, mon cœur. Titi Sandora a commencé sa carrière dans les années 60 dans le monde du chant. Après cela, la chanteuse de son vrai nom, Umiati, a collaboré avec Mohsin Alatas, son mari. L'une de leurs chansons célèbres intitulée Ton cœur, mon cœur. Cette chanson est devenue un hit à cette époque et a popularisé de plus en plus son nom. La chanson créée par E. Hasan et Is Haryanto raconte le contenu du cœur de deux personnes qui s'aiment. Bon, c'est Ritter, extendons maintenant la chanson de Titi Sandora intitulée Ton cœur, mon cœur. Bonne écoute et à demain!
Indonesia.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Di bawah
C'était l'émission quotidienne en français pour aujourd'hui, jeudi 27 juin 2019. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.